l'heure de la France bouge avec Raphaël Duchemin. Bonjour Raphaël.
Bonjour Céline, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Aujourd'hui c'est à nos enfants et à la gestion des écrans que nous allons nous intéresser. Vous êtes nombreux évidemment à vous demander comment leur apprendre à s'en servir avec modération, à les faire décrocher des jeux, des réseaux sociaux. Eh bien, vous allez voir que des innovations françaises sont là, à votre service, pour vous y aider. Juste avant, évidemment, c'est la France Bouge Académie, des projets au banc d'essai face à nos experts. Que vont-ils en penser? La réponse, c'est à 12h30, c'est la France qui bouge. Et ce sera juste après votre grand journal. Bonjour Pierre de Villeneuve.
Bonjour Raphaël Duchemin, bonjour à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Ils sont là, ils s'en foutent, ils n'ont pas peur, hein, et ils montrent bien qu'ils sont là. Ils vendent de la drogue, ils prennent de l'argent facilement, et c'est le bronze.
Quatre ministres à Marseille en ce moment pour présenter un plan anti-drogue, témoignages et explications dès le début de ce journal.
Lorsque les parents ne payent pas la cantine, les enfants sont au pain et à l'eau.
Il y a d'autres moyens que de prendre les enfants comme ça en otage, manger du pain et de l'eau, je trouve pas que ce soit normal.
C'est arrivé à deux élèves dans l'Allier, nous y sommes. Anne Hidalgo et Air Paris mènent la bataille contre les particules fines. Que peut faire l'État pour contrer la hausse des tarifs du pétrole? Emmanuel Macron ne veut pas d'un parti bourgeois et change de braquet sur la question de l'immigration. Et un témoignage également dans ce journal, celui d'une mère de famille qui a appris qu'elle avait été violée par le chirurgien de Jonzac.
Un regard glaçant qui vous fait froid dans le dos, où on se met en alerte, on se dit « il y a un problème ». C'est un gros manipulateur et il savait très bien ce qu'il faisait.
Et le foot avec le LOSC qui espère réaliser un exploit face à l'Ajax d'Amsterdam en Ligue des Champions. La tendance météo, Céline Dacosta, journée calme avec encore beaucoup de soleil sur la moitié sud.
Oui, avec ce soleil, des températures chaudes, hein, jusqu'à 35 degrés attendus à Nîmes. Pour la moitié nord, c'est plus mitigé, beaucoup de nuages. Les éclaircies reviennent doucement sur les Hauts-de-France et les Ardennes, le tout sous des températures qui vont de 20 à 26 degrés.
Merci Céline, on vous retrouve pour une météo complète, ce sera à la fin de ce journal.
Europe 1.
Ce n'est pas un ni deux ministres, Pierre, qui se sont déplacés à Marseille, mais quatre.
Oui, pour présenter ce nouveau plan pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans les quartiers nord de Marseille. Pour l'intérieur, Christophe Castaner accompagné de Laurent Nunez, la garde des Sceaux Nicole Belloubet, mais aussi le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, puisque c'est de lui que dépendent les douanes. Avant de donner la parole à notre correspondante Nathalie Chevance, je voudrais que vous écoutiez ce témoignage, celui de Fernand. Il est le papa d'un élève scolarisé au collège Campagne-l'Évêque, dans ces quartiers où règne le trafic de stupes.
Ben, j'attends que ça avance. Quand on sort, qu'on ne voit pas tous ces dealers là. Ils sont là, ils s'en foutent, ils n'ont pas peur. Hein, et ils montrent bien qu'ils sont là. C'est sûr qu'il y a du danger dans ces quartiers. C'est le bronze. Il n'y a pas de respect même pour les personnes âgées. Hein. On attend quoi? Ils vendent de la drogue, ils prennent de l'argent facilement. Moi, je viens chercher mes enfants, je ne les laisse pas venir tout seul. J'ai peur qu'il vienne quelqu'un qui camboucane mes enfants.
Là, les quatre ministres passent devant vous, vous avez envie de leur dire quoi?
Mettre plus de sécurité, mettre plus de police, mettre des commissariats dans les cités, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a rien ici. Qu'est-ce qu'on attend?
Fernand, à votre micro, Nathalie Chevance. On vous retrouve à l'hôtel de police de Marseille où s'expriment justement les quatre ministres après avoir visité les quartiers.
Ils viennent d'annoncer la création du tout nouveau plan baptisé LOFAST, comme l'annonçait d'ailleurs Alain Racot ce matin sur Europe 1. LOFAST qui va chapeauter le pilotage renforcé, plan de lutte déjà testé, je crois, Nathalie, depuis plusieurs années.
Oui, cette nouvelle méthode dite de pilotage renforcé est en place ici à Marseille depuis 2015. Le principe, c'est de décloisonner le renseignement criminel. Concrètement, cela veut dire que l'ensemble des services de police, mais aussi de gendarmerie, les douanes, les magistrats, travaillent ensemble, partagent leurs informations pour cibler les réseaux criminels. L'objectif du gouvernement, c'est de frapper des cages d'escalier aux grands réseaux internationaux avec, par exemple, très concrètement, la mise en place d'une plateforme d'appel pour signaler les points de vente de ces réseaux très bien implantés. Comme à la cité Campagne-l'Évêque, visitée ce matin par les ministres. Une cité qui a été le théâtre de règlements de comptes, de descentes de police aussi. Mais pour Virginie, qui travaille à la Maison pour tous, tous les plans successifs des différents gouvernements ne changent pas grand-chose dans son quotidien. Les renforts de police, dit-elle, ne font pas tout.
Ça sert à rien. Tout le temps des descentes de police, on se croirait dans des films.
Et alors?
Donc à un moment donné, il faut faire quelque chose en vrai. Que les centres sociaux, ils ont plus d'argent, pas assez d'argent. Il n'y a plus comme avant.
Vous réclamez
des subventions.
Ouais, c'est ça. Pour faire voir ailleurs, leur faire voir ailleurs que la cité.
Voilà, plus d'activités, de formations, d'emplois. Le chantier est gigantesque. Ce nouveau plan STUP comprend au total 55 mesures, sachant que la méthode du pilotage renforcé a permis quand même l'an passé de démanteler 68 réseaux dans les Bouches-du-Rhône, 36% de plus qu'en 2017.
Merci Nathalie Chevance à Marseille pour Europe 1. Bonjour Philippe Pujol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes journaliste, écrivain, prix Albert Londres pour votre série d'articles sur les quartiers nord de Marseille, depuis adapté en BD. Le trafic de drogue à Marseille, c'est un sujet serpent de mer. Il revient régulièrement. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution. Pourquoi est-ce que ça réussirait cette fois-ci ?
Il n'y a pas de raison que ça réussisse, mais de toute façon, il faut agir quand même. On est face à un problème de société qui dépasse les simples quartiers nord ou simplement Marseille. On est face à un problème de ségrégation sociale, et quand on met les gens entre eux, quand on fait de la ségrégation sociale, quand on met la misère la plus grande qu'on regroupe, eh bien, on va avoir les maux qui vont avec, on va avoir les symptômes, et les trafics de stupéfiants sont un de ces symptômes. Donc, déjà, il faudrait agir contre la ségrégation sociale. Donc, Marseille étant la ville la plus ségrégative de toutes, puisque on a au pouvoir depuis 25 ans des gens dont c'est le seul mode de politique à Marseille, c'est-à-dire la ségrégation sociale pour maîtriser les populations, pour les faire voter ou non, eh bien, on perpétue cette
c'est la ghettoisation dans les quartiers nord, c'est ça que vous dites ?
C'est la ghettoisation dans les quartiers nord qui est plus utile. Au quartier nord, c'est par facilité dans les quartiers nord, mais c'est les quartiers populaires, quartiers pauvres, et les quartiers nord eux-mêmes sont en quartier plus pauvre que d'autres.
On a du mal à vous entendre, évidemment. Malheureusement, Philippe Pujol.
Est-ce que vous pourriez vous écarter,
oui,
vous
de
déplacer
votre combiné,
peut-être,
oui,
parce que
la liaison
est mauvaise
et on aimerait bien vous entendre.
Alors, donc les quartiers populaires sont vraiment les quartiers qui sont le plus touchés par les trafics de stupéfiants, mais les quartiers plus riches ont aussi leur trafic de stupéfiants, comme la MDMA, mais là, on a moins d'action dessus, parce que c'est des trafics qui sont moins violents. Et donc, les autorités vont vers les trafics violents.
Mais qu'est-ce que... Alors, pour vous, c'est quoi ce déplacement de mini ? C'est de la politique pure ? C'est une opération de communication ?
Alors, ce n'est pas qu'une opération de communication. C'est la préparation des élections pour la République en mars, en Marseille, c'est évident. Et en même temps, c'est une volonté de remettre ce sujet-là, qui est le sujet de la violence et de la délinquance, et donc de la sécurité, qui est un sujet qui est très parlant. Pour les élections. Après, le plan, il faut avoir des plans, il faut mettre en place des plans. Mmh. C'est un plan national qu'il faudrait avoir sur le sujet. Marseille n'est tant qu'un laboratoire, si vous voulez. Mais,
sauf que la physionomie de la ville n'est pas la même, et les quartiers sont différents. Les quartiers sont dans la ville à Marseille, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres villes. Et ça change la donne.
Et ça change la donne parce que justement, on peut en faire un laboratoire. On peut tester des choses sur Marseille, puisque on a la capacité, on a encore un reste de tissu social qui est très mal en point, mais qui fait un boulot énorme et sur lequel on peut s'appuyer. Donc en effet, Marseille, c'est une ville qui est efficace pour travailler dessus. Puis c'est une ville qui est bien identifiée par l'opinion publique nationale comme étant la ville pour laquelle on traite de ces questions-là.
Faire plus pour contrer la ségrégation sociale qui favorise le banditisme et l'économie de la drogue. Voilà ce que vous dites ce midi dans notre émission. Philippe Pujol, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Pardonnez-nous, mais la liaison était vraiment très, très mauvaise.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 7. La suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. On a envie de dire, passez-moi l'expression, Pierre, pas de bras, pas de chocolat.
Oui, et au-delà de l'humour, mais c'est quand même un peu ça. Hein. Des mairies par le passé, on l'a vu, on avait menacé les parents, mauvais payeurs, de ne pas faire déjeuner, leurs enfants à la cantine. Menace, mise à exécution cette fois-ci à Saint-Pourçain-sur-Sioule, petit village de l'Allier, excédé par les impayés des parents des deux élèves. Le maire a décidé de leur donner du pain et de l'eau. Jean-Luc Boujon, vous êtes sur place et évidemment là-bas ça ne passe pas.
Effectivement, l'émotion, Pierre, est toujours là. Et pourtant, tout cela s'est passé il y a une semaine. Les deux enfants ont été placés dans une salle à part pour éviter les moqueries de leurs camarades. Et une employée de la cantine leur a donné plusieurs morceaux de pain, du pain frais, précise la mairie, et des verres d'eau. Mais cela, évidemment, a beaucoup choqué une majorité de parents rencontrés ce matin devant le portail de l'école.
Pour les enfants, je trouve ça atroce, franchement. Ils ont dû être angoissés et tout, d'être tout seuls dans une pièce. Et je trouve ça immonde, franchement.
C'est pas normal, on s'en prend pas aux enfants, je pense. Les parents ont tort de pas payer, ça, je suis d'accord.
Ça fait un an quand même, hein.
Ça fait un an, je suis d'accord, ils ont tort. Mais il y a d'autres moyens que de prendre les enfants comme ça, en otage, manger du pain et de l'eau. Je trouve pas que ce soit normal.
Pourtant, le maire, les Républicains de Saint-Pourçain assument, s'il a dû en arriver là, c'est parce que cette famille ne payait pas depuis un an et surtout ne répondait à personne.
C'est d'une famille qui est sourde aux appels téléphoniques, aux messages qu'on laisse, aux courriers, aux visites. On ne les trouve même pas chez eux. Et puis, quand vous avez des impayés qui sont d'une année, vous dites, on va essayer de faire un électrochoc, on va leur donner du pain frais et de l'eau. Les lois sont faites aujourd'hui pour protéger les gens qui ne payent pas. Et j'ai aucun moyen, je ne peux pas faire des prélèvements sur les allocations familiales, je ne peux pas faire des prélèvements sur salaire, je ne peux pas mandater un huissier. La trésorerie a tout essayé, ce n'est pas possible.
Et force est de constater, bien que le résultat a été immédiat, le soir même, les parents sont venus régler leurs impayés et enfin inscrire normalement leurs enfants à la cantine, ce qu'ils n'avaient pas fait en cette rentrée, alors pourtant que les deux écoliers étaient nourris gratuitement depuis le début de l'année.
Merci Jean-Luc Boujon à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier. On vous parle du réchauffement climatique. Eh bien, selon de nouvelles simulations d'ingénieurs du CNRS et du commissariat à l'énergie atomique, ce réchauffement devrait être plus prononcé que prévu. Tenez-vous bien, la température sur Terre pourrait augmenter jusqu'à 7 degrés en plus en 2100.
Et pendant ce temps, la région Île-de-France, Pierre, continue de vouloir maximiser la qualité de l'air.
C'est pourquoi Air Paris s'apprête à installer un nouvel instrument permettant de bien mesurer l'impact des particules ultra fines. Il s'agira de deux petits cubes en métal qui absorberont l'air avant de trier ces particules et ensuite les compter.
Quant à la mairie de Paris, elle teste depuis 2 ans maintenant la qualité de l'air au travers de capteurs installés sur 400 voitures qui circulent dans la capitale. Virginie Salmen, vous êtes au parc André Citroën. Anne Hidalgo est en train justement de dévoiler les tout premiers résultats.
Oui, et on découvre avec ces résultats des zones de pollution jusqu'ici peu connues. Alors des points chauds dans la capitale, notamment les bouches de métro qui rejettent des particules fines à des niveaux de danger exceptionnels, estime la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors ces particules, elles mesurent moins de 2,5 microns et elles sortent des 300 bouches de métro de la capitale. Ce sont des nuages de pollution invisibles qui ont été détectés par Pollutrack, donc ce nouveau système de capteurs fixé sur 400 voitures électriques, dont des voitures avec chauffeur qui sillonnent Paris jour et nuit. Il repère des foyers de particules à hauteur d'homme et très localisés. Par exemple, des cars de tourisme le long des Champs-Élysées, les sorties de parking souterrains mal ventilées ou encore des rues à effet canyon, c'est-à-dire des rues étroites où les bâtiments sont très hauts, ce qui provoque un embouteillage de particules. De l'air venu parfois du périphérique peut s'y retrouver coincé les jours de très faible vent. C'est le cas de certaines rues du Marais, par exemple. En revanche, la place de l'Étoile, qu'on aurait pu croire polluée en raison de la circulation dense, se révèle particulièrement bien aérée. Alors ces mesures d'une précision inédite, pas encore totalement validées scientifiquement, pourraient permettre d'organiser la ville autrement, avec des espaces verts par exemple ou des fontaines qu'on placerait à des endroits judicieux pour tenter d'éteindre ces différents foyers de pollution.
Merci de ces précisions Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Il est midi 12.
Europe 1.
À suivre sur Europe 1, cette question: le gouvernement peut-il baisser les taxes pour que l'essence soit moins cher. À tout de suite. La suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
C'est donc acté, le prix de l'essence va augmenter, Pierre, de 4 ou 5 centimes dans les tout prochains jours.
On vous l'a expliqué dans ce même journal hier, c'est la conséquence des attaques par drone d'installations pétrolières en Arabie Saoudite qui du coup a dû réduire de moitié sa production pétrolière. Résultat, le prix du baril a bondi de plus de 14% en 24 heures.
Maud Descamps, on va voir ça avec vous. La question qui se pose, c'est que peut faire le gouvernement pour contrer finalement cette hausse du Brent? Ce qui s'est passé, c'est que l'exécutif a déjà demandé aux pétroliers de faire un effort.
Exactement. Ce matin, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, a appelé les pétroliers à la modération pour ne pas répercuter la hausse des prix du Brent à la pompe. Selon les professionnels du secteur, il faut s'attendre en effet à une hausse de 4 voire 5 centimes sur le litre d'essence ou de gasoil dans les prochains jours. Mais cette solution n'est pas envisagée par les pétroliers comme Total, qui rétorque que les marges pratiquées sont déjà très faibles, 1 centime en moyenne sur le litre de carburant. carburant. Les professionnels du secteur estiment que c'est au gouvernement de faire un effort et de baisser les taxes. Sur un litre de carburant, les taxes représentent à peu près 2/3 du prix. Alors si le gouvernement optait pour une baisse de la fiscalité, il aurait alors 2 leviers, soit réduire la TVA sur les taxes, ça a déjà été fait en 2012 par le Premier ministre de l'époque Jean-Marc Ayrault, ou alors instaurer une taxe flottante qui varie en fonction du prix du brut. Mais cette solution a déjà été testée en 2000 sous Lionel Jospin. Elle avait été abandonnée 2 ans plus tard car elle n'avait pratiquement pas fait baisser les prix à la pompe.
Merci Maude Descamps du service économie d'Europe 1.
C'est une déclaration forte et on peut le dire, un changement important, Pierre, qu'a fait Emmanuel Macron hier en matière d'immigration.
Oui, car devant 200 parlementaires et membres de sa majorité, il a déclaré qu'il fallait regarder le sujet en face et se poser la question de savoir si En Marche voulait être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois, dit-il, n'ayant pas de problème avec l'immigration car ils ne la croisent pas, contrairement aux classes populaires. David Doucan, chef du service politique d'Europe 1, on va essayer d'y voir plus clair avec vous. D'abord, pourquoi cette déclaration, là, comme ça, hier soir ?
C'est très simple, parce qu'il y a des élections au mois de mars. Le président sait que le sujet de l'immigration est une préoccupation majeure de nos concitoyens et donc des électeurs. Problème, le parti qui est perçu comme ayant la ligne la plus claire sur ce dossier, c'est le Rassemblement national. Or, la loi asile-immigration, adoptée en août 2018, a laissé un sentiment de compromis dans l'opinion, pour la bonne et simple raison qu'elle est le fruit d'un compromis. Emmanuel Macron, hier soir, il fait de la politique. Pas seulement à destination de sa majorité, c'est au pays qu'il s'adresse. Il sait que la perception l'emporte sur la réelle efficacité ou non du dispositif technique mis en place par la loi. Donc, il s'empare du ministère le plus efficace en période électorale, celui de la parole.
David, maintenant, quelles conséquences après ce discours ?
Et bien maintenant qu'il a posé le constat d'une situation insatisfaisante, il a l'obligation de passer aux actes. Et c'est là que cela se complique. Est-ce qu'on réforme l'AME ? L'aide médicale d'État qui permet aux migrants, même en situation irrégulière, d'être soignés à l'hôpital. Est-ce qu'on dit, par exemple, qu'on traite les urgences vitales, mais pas toute une série de pathologies que l'on jugerait moins graves ? Ça veut dire toucher ce que l'on appelle le panier de soins. Allez dire cela à un médecin, pas sûr qu'il comprenne la démarche au regard du serment d'Hippocrate. Et c'est le retour, vous vous en souvenez sans doute, de petit rhume, gros rhume, qui avait plombé le début de campagne de François Fillon en 2017. Est-ce que, autre idée, on instaure des quotas pour l'immigration économique ? Là encore, message politique réel. Mais quelle efficacité ? Puisque le problème, c'est l'immigration illégale et les passeurs se fichent un peu des quotas. Donc attention à un effet boomerang. Un président qui crée un espoir dans l'opinion sur la question de l'immigration et qui déçoit avec des annonces en demi-teinte ou dont les effets se ressentiraient, mais seulement dans plusieurs années.
Merci David Doucan, chef du service politique d'Europe 1. Dans ce contexte, une nouvelle évacuation de migrants a eu lieu tôt ce matin à Grande-Synthe. 200 personnes qui, l'hiver dernier, avaient été accueillies par le maire dans un gymnase ouvert par Grand-Foy. Sauf qu'entre-temps, c'est un millier qui véritablement y habitait, parfois dans des tentes autour de la salle municipale. Et le préfet du Nord, Michel Lalande, ce matin, justifie cette évacuation.
Je pense que chacun était content ici de sortir de ce bidonville. Ce camp était tout sauf à l'image de la France. On était sans doute beaucoup plus proche d'une banlieue du Kurdistan irakien que de l'idée qu'on a des territoires français. Donc oui, il fallait mettre un terme à ce campement. La justice l'a permis, comme vous le savez. Et cette évacuation, nous la faisons ce matin avec beaucoup de conviction. Ces migrants, ils sont emmenés dans des centres d'accueil qui se situent plutôt sur la partie nord de la Loire pour éviter des distances trop longues. Et à ces migrants, il leur sera proposé le droit français, tout le droit français, rien que le droit français, c'est-à-dire la possibilité de demander un asile, de demander un examen de leur situation, y compris pour ceux qui le souhaitent, de retourner dans leur pays, car il en est qui veulent repartir dans leur pays et qui pourront bénéficier de l'aide au retour volontaire qui leur sera donc ainsi proposé.
Le préfet du Nord interrogé par Lionel Gougelot. Le procureur de Nancy a saisi l'IGPN après la vidéo montrant un CRS frappant un manifestant samedi dernier, justement dans la ville, dans l'acte 44 des Gilets jaunes. On voit l'homme se faire frapper par une matraque au niveau du visage.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 20. La suite de votre journal, Raphaël Duchemin, Pierre Devineau.
C'était il y a moins d'un mois. Une femme de 33 ans, que nous appellerons Marie, reçoit la visite de 2 gendarmes. Une visite qui va changer le cours de sa vie, car elle découvre avoir été violée après une opération chirurgicale et ce alors qu'elle avait 10 ans.
Cette maman de 2 enfants apprend qu'elle est l'une des 200 victimes présumées de l'ancien chirurgien Joël Lesquarnec. C'est la découverte d'un carnet tenu par le médecin qui a permis de l'identifier. Des lignes que Marie a pu lire et qui l'ont bouleversée.
Il me décrit totalement nu, ainsi que tout ce qu'il a fait. La jouissance qu'il a à écrire ça, quand on voit qu'il prend du plaisir, c'est aberrant.
Ça vous fait quoi, ça?
Ça m'écœure. Moi, je l'assimile beaucoup à un récit de livre pornographique. Là, pour le coup, on parle d'enfants, de personnes innocentes, enfin inconscientes même, de la vie sexuelle à leur âge.
Vous vous souvenez de lui?
L'autre jour, j'ai eu une vision de son visage, de son regard qu'il a posé sur moi avant de me violer. Un regard glaçant qui vous fait froid dans le dos, où on se met en alerte, on se dit « il y a un problème ». C'est un gros manipulateur et il savait très bien ce qu'il faisait.
Vous ressentez quoi vis-à-vis de cet homme?
Du dégoût, irrépugnant. J'ai de la colère profonde. Quand on pense à ça, on a juste envie de vomir, quoi. On se sent sale, on se sent humilié. Je dirais même qu'on a honte de ce qui nous est arrivé. Moi, il m'a violée, mais il m'a volé ma vie de femme, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas une vie normale. Donc, on peut pas me toucher. Il faut l'enfermer, il faut plus qu'il sorte, il faut plus qu'il fasse du mal. Je pense qu'il a assez fait de mal à des enfants, à des familles. Il faut que ça s'arrête.
Voilà pour ce témoignage recueilli par François Coulon.
Il est midi 21. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le LOSC doit réussir l'exploit ce soir. Et une expo, Expo Europe 1, au Musée du Luxembourg à Paris. À tout de suite.
À la suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Avec le football, Pierre, et c'est le retour, eh oui, de la Ligue des Champions.
Et Lille affronte un adversaire de taille, l'Ajax Amsterdam, demi-finaliste l'an passé, le LOSC, petit pousset de l'épreuve, espère réaliser un exploit face à une formation qu'elle admire, Cyril de la Morinerie.
Oui, les Lillois débutent leur ascension européenne par la face nord de l'Everest, hein. C'est l'Ajax Amsterdam qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions, la mythique formation du regretté Johan Cruyff, qui a laissé son empreinte avec un jeu spectaculaire qui a ravi l'Europe entière la saison dernière. Mais les Lillois n'ont pas l'intention de les regarder et croient en leur chance, souligne le défenseur Jérémy Pied.
On est très content, mais à un moment donné, il va falloir passer outre. Passer outre tous ces noms, on y va pour faire un match et puis pour faire un résultat, tout simplement. Maintenant, on sait que forcément, il n'y a que des gros matchs. Mais à nous de garder de l'humilité, mais à faire nos matchs sérieusement.
Voilà, de gros matchs prévus également contre Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa et Valence. Quoi qu'il arrive, le LOSC a déjà réussi son pari, retrouver l'Europe un an et demi seulement après avoir frôlé la relégation en Ligue 2. Le recrutement de jeunes à fort potentiel, objectif du propriétaire Gérard Lopez, porte ses fruits.
Merci Cyril de la Morinerie en direct d'Amsterdam pour ce match. Donc on apprend qu'Egan Bernal, le vainqueur colombien du Tour de France, colombien, ne participera pas aux mondiaux du cyclisme en Angleterre. On ne connaît pas le motif de ce forfait.
De la Tate moderne à Londres au musée du Luxembourg à Paris, il n'y a manifestement qu'un pas.
Oui, c'est une extraordinaire exposition sur la peinture anglaise qu'a visité Diane Chénouda.
On a tous les grands noms de la peinture anglaise. Gainsborough, Reynolds, Turner. 68 chefs-d'œuvre prêtés par la Tate pour 5 mois au musée du Luxembourg. Martin Myron, conservateur en chef de la peinture anglaise à la Tate Britain.
C'est extraordinaire pour nous de partager autant de tableaux. Il y a des murs vides chez nous à Londres, mais on va les remplir. Mais ce qui est vraiment très important, surtout en ce moment, c'est de pouvoir célébrer la culture anglaise et mettre en lumière la diversité et la qualité de la peinture anglaise.
Alors la Tate demande au musée français de dresser une dream list, la liste de ses envies. Cécile Maisonneuve de la Réunion des musées nationaux.
Voilà, nous avons commencé à travailler sur une liste de rêves dans lequel déjà figuraient les archers de Reynolds.
Cette toile, c'est le clou de l'exposition. On y voit deux jeunes aristocrates qui tirent à l'arc en pleine forêt. Même générosité pour Turner.
On se disait que la Tate ne lâcherait pas un grand Turner, donc on en avait choisi un petit. Et la Tate nous en a proposé un très grand.
Alors merci les Anglais, car c'est juste sublime.
Merci. Thank you, Diane Chénouda. Exposition Europe 1 à voir au musée du Luxembourg à Paris.
On vous retrouve tout à l'heure, Pierre, à 13h pour un nouveau journal.